Donc, pour ce message, j'ai décidé de prendre la suite de nos lectures suivies dans Marc. Et donc, nous nous étions arrêtés avec Abdel donc dans le chapitre 1 au verset 13. Et donc, je vais prendre la suite à partir du verset 14 et je vais aller jusqu'au verset 28. Donc, je vous le lis dans une traduction, donc la TOB que j'aime bien utiliser, qui est assez inhabituelle pour vous, mais ça vous permet aussi de l'entendre avec des mots qui changent un peu et qui vous permettent de l'avoir aussi avec une oreille attentive, une oreille nouvelle. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans leur barque, en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question. D'après vous, quel est le point commun entre toutes ces personnes à l'écran ? Mis à part qu'elles ont toutes deux yeux, un nez, une bouche.
La communication.
Communication, ça colle mal avec celle du milieu.
Il montre le chemin, il guide.
Il montre le chemin, il guide, ça c'est intéressant, oui. Voilà, peut-être que vous ne les connaissez pas toutes, hein. Bon là je pense que ça va. Pape François et à côté Bartholomé, le chef de l'église orthodoxe. Nous avons une maman et son fils, nous avons un prof d'université, a priori, nous avons l'abbé Pierre, nous avons des juges, Cour internationale de justice, et nous avons Elon Musk. Qu'est-ce qu'il y a à faire là ? Donc, ce que Dorothea disait est quasiment ça, ce sont toutes des personnes qui ont, dans le rôle dans lequel ils sont là sur cette image, sur ces images, qui ont autorité. Dans une certaine mesure, dans un certain cadre, mais qui ont autorité. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'est l'autorité ? C'est un mot qui n'est pas très populaire, hein. Ça apporte une connotation assez négative. On prétend immédiatement le pouvoir, l'oppression. On a en tête les abus autoritaristes du XXe siècle, peut-être. Et pourtant, il semble que l'autorité, ce soit une caractéristique fondamentale de notre expérience humaine. L'être humain, c'est un être de relation, un être social. Et inévitablement, en société, il est nécessaire de se doter de lois, de conclure des alliances, des contrats. Et donc, il est question d'autorité. Et l'autorité, elle peut se concevoir dans des situations très différentes. Hein, dont on en a plein d'exemples dans la Bible. On peut voir l'autorité d'un maître sur son esclave, d'un père sur son fils, d'un officier, un centurion sur ses soldats, un chef religieux, un pharisien, sur le peuple, d'un monarque, comme Hérode, ou d'un représentant de l'autorité romaine, comme Pilate, sur un territoire. Puis de nos jours, on pourrait considérer aussi l'autorité exercée par un employeur, par un élu en démocratie, par un gendarme, ou même un influenceur. Alors, si on cherche une définition de ce qu'est l'autorité, on peut trouver dans le dictionnaire, l'autorité, c'est le pouvoir de commander, d'être obéi. Mais du coup, si je demande à quelqu'un de faire quelque chose et qu'il le fait, est-ce que ça veut dire que j'ai autorité? Ben pas forcément, parce que avec un pistolet sur la tempe ou bien un bon lavage de cerveau, on obtient le même résultat. Hein. La philosophe Hannah Arendt précise que l'autorité se traduit par une adhésion volontaire, sans contrainte ni persuasion. Si on veut se faire obéir à tout prix, on va user de force ou de manigance. Hein. Mais ça, c'est pas de l'autorité. C'est se faire obéir par la force ou par la persuasion. On peut le voir, par exemple, un adulte qui manque d'autorité sur un enfant. Tous étaient témoins de cette scène, ou peut-être on l'a vécu. Comment on fait ? Ben, on pourra le contraindre physiquement, le tirer par la main, viens ici. Ou bien on pourra user de chantage, si tu viens pas, tu n'auras pas de dessert. Mais ça, c'est plus d'autorité. C'est déjà une forme de manipulation ou d'utilisation de la force. Je ne dis pas que c'est illégitime, je dis juste que ça montre un manque d'autorité dans cette situation-là. Puis au niveau politique, c'est la même chose. Hein. Un pouvoir qui voit son autorité remise en question, ben, elle usera ou bien de la force, ou bien d'une forme de propagande, ou bien des deux à la fois. Et donc, user de la force, c'est devenir autoritaire, donc c'est plus d'autorité, mais de l'autoritarisme, et puis obtenir par la persuasion, c'est plus de l'autorité non plus, c'est de la manipulation. Donc l'autorité se situe entre les deux. Et donc, je vous parle de ça parce que dans notre récit, on voit Jésus accomplir trois exploits. Tout d'abord, il engage des inconnus à sa suite qui lâchent tout pour le suivre. Quand même pas rien. Il les croise et hop, ils le suivent. Il enseigne dans la synagogue mieux que les scribes. Ce qui est aussi quand même pas banal. Et puis, dernier épisode de notre récit, il pratique un exorcisme, il chasse un démon de manière assez impressionnante, au point que toute l'assistance est étonnée. Et donc, sans surprise, hein, le passage se conclut par « Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée ». Ça montre bien que le caractère exceptionnel et puissant de ce qui a eu lieu. Alors, ces trois actions, elles ont un point commun. Pour le fait d'engager des inconnus à le suivre, on nous dit « Jésus leur dit, venez à ma suite ». Et laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. L'autre duo, Jacques et son frère, il les appela, et on le dit, et laissant leur barque, leur père avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Dans la synagogue, il nous est dit, Jésus enseignait, et ils étaient frappés de son enseignement. Et concernant l'exorcisme, Jésus lui commanda sévèrement, et l'esprit impur le secoua avec violence, et il sortit de lui en poussant un grand cri. Dans toutes ces situations, Jésus ne fait qu'une chose, il parle. Et le fait que cette parole soit directement opérante, c'est-à-dire qu'elle se traduise directement par des faits, c'est bien la signature d'une autorité. Si vous pensez au juge, par exemple, un juge qui prononce « cette personne est condamnée à 3 ans de réclusion criminelle », ça a des effets immédiats sur la personne concernée, mais aussi sur toute l'administration et surtout tous les services qui vont devoir appliquer cette sentence. Si je dis à mes étudiants « rangez vos documents, prenez une feuille vierge », généralement un frisson parcourt la classe et ils s'exécutent parce que dans cette situation, j'ai autorité. Si un prince annonce « je veux construire une ville futuriste qui aurait la forme d'une ligne de 170 km de long à travers le désert », je parle ici du prince Ben Salman en Arabie Saoudite, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, et ben, des milliers d'architectes s'exécutent et ça se met en œuvre. Aussi, un exercice d'autorité. Donc là, vous voyez les lignes, les travaux, hein, et puis ça, c'est des camions. Hein. Donc vous voyez l'ampleur du truc. Juste parce qu'il avait envie de ça. ça se fait. Alors reprenons les trois éléments du récit. Sur le bord du lac, Jésus aurait pu agir autrement. Il aurait pu ligoter ses disciples, les mettre dans une brouette, les embarquer avec lui. Mais on aurait juste dit qu'il était plus fort qu'eux. Il aurait pu aussi user de manipulation, essayer de négocier, etc. Mais on aurait juste dit qu'il était rusé. Non, Jésus parle, ses hommes le suivent. De même pour l'exorcisme, Jésus il aurait pu prononcer une formule magique, lue dans un livre de sorcellerie ou je ne sais quoi, accomplit un rituel dont l'effet est attendu. Mais non, pas du tout. S'il avait fait ça, il serait un magicien. Là, il commande, l'esprit sort. Un tantinet contrarié, mais il sort. D'ailleurs, le fait qu'il soit contrarié, c'est bien signe qu'il est obligé d'obéir. Et puis, quant à son enseignement, le texte nous dit explicitement que Jésus enseignait avec autorité. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui fait qu'on a autorité ou pas ? Alors, quelle est la recette pour avoir autorité sans tomber dans les deux travers que j'ai mentionnés, la force ou la manipulation ? Bah déjà, il faut être conscient que l'autorité, ça ne se décrète pas. On en a ou on n'en a pas, mais on ne peut pas décider par soi-même soudainement d'en avoir. Sinon, on tombe dans les deux travers dont je vous ai parlé. Alors, qu'est-ce qui permet à une personne ou à un groupe d'avoir de l'autorité sur une autre ? Bah, la recette, elle n'est pas très simple. Hein. C'est une combinaison de deux choses. Il faut de la légitimité, d'une part. Il faut être légitime à exercer l'autorité. Et puis, il faut que ce soit accepté, d'autre part. Donc, combinaison de légitimité et d'acceptation. Oui, c'est des mots compliqués, mais je vais y revenir. Et puis, puisqu'on est à faire un peu de philosophie, on peut se demander qu'est-ce qui nous donne de la légitimité ? Qu'est-ce qui fait que dans une situation, on est légitime ? Alors, le philosophe Max Weber distingue trois types de légitimité. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, cette histoire-là. Donc, il parle déjà de l'autorité juridique ou légale, où on dit aussi les légitimités rationnelles, s'il veut bien afficher. Voilà, donc c'est ce que vous aviez avec les juges, c'est la loi qui leur donne l'autorité, ou le prof, c'est une certaine forme de loi aussi, en tout cas, c'est rationnellement, on comprend qu'il a autorité. On peut avoir une autorité qui est traditionnelle, donc... Je crois que le câble a du mal, hein, mais pardon pour le clignotement. On a, par exemple, le pape ou Bartholomée pour l'Église orthodoxe sont des gens qui ont autorité, pas parce que les lois leur donnent autorité, mais parce que traditionnellement, dans le système, dans la religion instituée, ils ont autorité. De même, une mère sur son fils, c'est... Alors, il y a une autorité légale aussi, mais c'est dans toutes les cultures, les parents ont autorité sur les enfants. Et puis, il y a une troisième forme d'autorité qui est l'autorité plutôt charismatique. Et donc là, c'est plutôt légitimé par ses capacités de leader, son charisme. Donc là, dans cette catégorie, on peut ranger Elon Musk ou l'abbé Pierre dans une certaine mesure. Hein. Mais on en a aussi un exemple dans la Bible. Dans Acte 8, on a l'épisode entre Barabbas et Simon le magicien. Je vous le lis. Donc Acte 8, verset 9. Il se trouvait déjà dans la ville un homme du nom de Simon qui faisait profession de magie et tenait dans l'émerveillement la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un d'important et tous s'attachaient à lui, du plus petit jusqu'au plus grand. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. S'il s'attachait ainsi à lui, c'est qu'il les maintenait depuis longtemps dans l'émerveillement par ses sortilèges. Là, on est vraiment dans l'autorité charismatique. Il émerveille les gens et les gens le suivent. Alors, dans notre texte ici, est-ce que, dans quelle catégorie on peut ranger l'autorité de Jésus ? Alors, pour les pêcheurs galiléens, pour les pêcheurs galiléens, on ne peut pas dire que la loi ou la tradition donne l'ascendant à Jésus sur eux. Il y a un inconnu qui passe à côté d'eux, et il n'est pas policier. Hein. Et puis... On imagine volontiers que Jésus pouvait avoir du charisme, mais dans le texte, il n'a pas le temps d'avoir du charisme, en fait. Hein. Il dit « Venez à ma suite », et puis ils le suivent immédiatement. Contrairement à Simon le magicien, Jésus n'a pas fait de prodige à ce moment-là. Il leur a ordonné de le suivre et ils l'ont suivi. Donc, ça rentre pas trop dans nos critères, hein. Et puis, concernant son enseignement dans la synagogue, ben, Jésus, là encore, n'a pas d'autorité traditionnelle puisqu'il n'est pas scribe, ni légal, hein, ni juridique. Et puis, ben, au niveau du charisme, ce qui est mis en avant dans le texte, c'est pas que il est quelqu'un qui en impose, c'est que son enseignement est important. Son autorité réside dans le contenu de ses paroles. Et donc un enseignant qui tiendrait son autorité de son charisme, ce serait une forme de gourou. Mais là, c'est vraiment, il tient son autorité de ses paroles. Et puis concernant le dernier épisode sur l'exorcisme, c'est difficile d'imaginer qu'un rappel à la loi des hommes puisse faire bouger un démon, hein. Donc, autorité juridique, c'est difficile, en tout cas, on y reviendra peut-être, mais la tradition, ça m'étonnerait qu'elle rende aussi certains esprits plus à même de se faire obéir, hein. Et puis ça m'étonnerait encore plus qu'un démon cède au charisme d'un homme. Donc, pareil pour l'exorcisme, ça a du mal à tomber dans les critères donnés pour la légitimité de l'autorité humaine telle que Max Weber nous proposait. Alors, si Jésus ne bénéficie d'aucune de ces trois formes de légitimité, que même qu'on les ait théorisées ou pas, on les perçoit habituellement, c'est logique que l'origine de son autorité interroge ses contemporains. Dans Marc 11, on nous dit: alors que Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens s'approchent de lui. Ils lui disaient: en vertu de quelle autorité fais-tu cela? Ou qui t'a donné autorité pour le faire? C'est vraiment. Ah, ça interroge vraiment les gens de son temps, et en particulier ceux qui sont habituellement dépositaires traditionnels de l'autorité. Alors notre récit s'inscrit dans un certain contexte, hein, on l'a lu au verset 14 et 15, et puis on a vu la dernière fois, Jésus a été fait baptiser, a reçu le sceau de l'Esprit, on pourrait dire, il a été poussé dans le désert, il a été tenté, et puis. Dans les premiers versets que j'ai lus tout à l'heure, on nous dit: Jésus proclamait l'évangile de Dieu et disait: le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le règne de Dieu s'est approché. Il est donc question d'un règne divin. Alors, qui dit règne divin dit roi, dont la légitimité ne va pas être issue des traditions humaines. C'est bien de Dieu lui-même que Jésus tire sa légitimité ici. Je trouve qu'il est toujours un peu surprenant de voir que Jésus ne s'annonce pas d'emblée comme roi. Je dirais que ça simplifierait les choses, qu'il baisse le masque d'emblée et puis qu'il dise bah, c'est moi le roi, suivez-moi, quoi. Il entretient à ce sujet une part de mystère et on se dit parfois que les choses seraient plus simples et plus efficaces s'il était plus explicite, hein. Mais réfléchissons, quelle légitimité aurait un roi qui se dit lui-même roi? Quel crédit on pourrait associer à quelqu'un, qu'on pourrait accorder à quelqu'un qui se proclame lui-même l'élu, le Messie? Et qu'est-ce qui fait qu'un roi est roi? Est-ce qu'il faut qu'il soit bien habillé, qu'il porte une couronne? Je vous en montre un. Encore une fois, ça. Vous savez qui c'est, lui?
Alors. Charles III.
Ah, voilà, il y en a qui le reconnaissent, il y en a qui le reconnaissent pas. Alors je vous le montre sous une autre photo de lui, c'est la même personne.
Ah bah oui, on le reconnaît.
Là, avec tous les attributs de la royauté, on le reconnaît nettement mieux. Mais sur la photo de gauche, il est tout à fait roi aussi, en fait, hein.
C'est marrant.
Donc ce qui fait qu'un roi est roi, ce n'est pas ses attributs. C'est le fait que tout un contexte le légitimise et lui donne ça. Mais il n'empêche que si on ne sait pas que c'est lui, on va avoir du mal à le suivre comme roi. Alors, l'autorité de Jésus, on a dit, elle n'est pas légitimée par les critères humains habituels. Alors, qu'est-ce qui va manifester sa royauté si les critères qu'on a d'habituel n'en suffisent pas? Eh bien, Jésus répond lui-même dans Jean, au chapitre 5, verset 36, Je possède un témoignage qui est plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Je les fais et ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père m'a envoyé. Pour Jésus, il n'y a pas besoin d'attributs. C'est les œuvres que le Père lui a données à accomplir qui manifestent sa royauté. Et je crois que c'est vraiment le sens de ces premiers événements rapportés par Marc. On est au tout début du ministère de Jésus. Il n'a encore rien accompli publiquement. Et à travers ces événements qui sont relatés, on voit l'autorité qu'il revêt. Alors, comme on l'a dit, pour que l'autorité s'exerce, il faut qu'elle soit légitime, mais il faut aussi qu'elle soit acceptée. Si disposer d'une autorité légitime et reconnue ne la rend pas nécessairement opérationnelle. Hein, Charles III, que je vous ai montré, là, je pense que personne ne conteste le fait qu'il est roi d'Angleterre. C'est tout à fait légitime. Personne ne remettrait ça en question, et pourtant, s'il vous demande demain de vous mettre à son service, est-ce que vous l'accepteriez ? Ça m'étonnerait. Et je ne suis même pas sûr qu'un Anglais l'accepterait de même, parce que il n'est pas un monarque absolu, son autorité est limitée, cantonnée à un certain cadre, et on l'accepte dans ce cadre, on ne l'accepterait pas en dehors. Autre exemple, on peut fuir face aux gendarmes, on refuse d'obtempérer, a priori, la loi nous l'interdit, sauf si ce gendarme vous demande de passer chez lui tondre la pelouse. Là, il n'est plus dans son domaine d'autorité. Alors l'autorité de Jésus, de même, est-ce qu'elle aurait des limites ? Alors, si je reviens à notre texte. Dans notre récit, l'auditoire de la synagogue, tout comme les futurs disciples, reconnaissent à Jésus une certaine autorité, c'est évident. Ils comprennent qu'il est au-dessus des scribes, et les disciples comprennent ou ressentent, on ne sait pas trop, quant à eux, que Jésus est plus important que tout ce qui compte à leurs yeux. Mais probablement qu'ils ne le perçoivent pas encore comme le roi et seigneur qu'il est réellement. Et comment ils pourraient le faire s'ils ne savent pas exactement qui il est ? Pas de sceptre, pas de couronne visible. D'ailleurs, la seule fois où Jésus a des attributs de royauté, c'est quand son entrée triomphale à Jérusalem, et là c'est plutôt une forme de parodie, où il entre sur un âne au lieu d'un cheval. Donc, sa royauté est d'un autre ordre. Le seul personnage qui est parfaitement soumis à Jésus, c'est en fait le démon. C'est lui qui connaît son identité terrestre, puisqu'il rappelle « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Il sait exactement qui il est d'un point de vue humain. Mais aussi et surtout, il connaît son identité spirituelle. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Il sait donc qu'il se tient en face du roi des rois et qu'il est donc sous son autorité. Il n'a pas d'autre choix que d'obtempérer. Et c'est effectivement ce que Jésus dira à Pilate, Pilate qui l'interroge en Jean 18, verset 36, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Alors il faudra un peu de temps aux disciples, comme à une partie du peuple, pour prendre conscience de cette seigneurie de Jésus et l'accepter, ou la refuser, en tout cas pour qu'il y ait cette phase d'acceptation. Et l'autorité de Jésus, pour légitime qu'elle est, elle n'est effective que si on l'accepte. C'est ce qu'on exprime quand on l'appelle Seigneur. Si on l'appelle Seigneur, c'est qu'on exprime qu'il a autorité sur nous. Et concernant les disciples, ce n'est qu'après la résurrection, c'est-à-dire après que Jésus ait accompli l'ultime œuvre que le Père lui a confiée, celle qui assoit son autorité jusque sur la mort, son autorité sur la mort par sa victoire à la croix, que Jésus confirmera explicitement à ses disciples lors d'un dernier entretien. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Je ne sais plus si je vous l'ai mis. Donc là, cette fois-ci, les disciples ont appris à le connaître. Ils ont passé un certain temps avec lui. Ils ont vu toutes les œuvres qui rendent compte de la légitimité de Jésus. Et cette fois-ci, Jésus leur dit explicitement « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Je suis donc bien le roi. » Et nous, dans tout ça ? Et nous, frères et sœurs, où en sommes-nous ? Avons-nous vraiment pris conscience de l'autorité de Jésus-Christ ? Ce mot qu'on n'aime pas, autorité. Y a-t-il des moments dans notre vie où, à l'instar des pêcheurs de Galilée ou des juifs de la synagogue, son autorité s'est imposée à nous ? Où elle s'est faite à ce point manifeste que nous en restons interloqués et qu'elle change notre vie ? Ou bien peut-être est-ce que nous nous sentons contraints de le suivre ? Il y aurait des pressions morales ou relationnelles qui feraient que vous êtes là ce matin, plutôt qu'un élan du cœur volontaire. Ou bien est-ce qu'il y aurait tromperie ou ambiguïté pour que vous vous disiez chrétien ? Rappelons encore une fois que l'autorité de Christ, comme toute autorité véritable, elle ne nous forcera pas. Elle engendre une obéissance volontaire, non contrainte par la force, ni imposée par la ruse, comme je vous le disais tout à l'heure. L'histoire de l'Église, elle est saturée de tentatives pour étendre manu militari le règne de Dieu. Étendre par la force le règne de Dieu. Mais nous connaissons le résultat. Quant à la ruse et la manipulation, s'il y a bien un personnage qui l'incarne, c'est l'adversaire du royaume. Dès le jardin d'Éden, sous les traits du serpent. C'est d'ailleurs précisément des manipulations du diable que Jésus est vainqueur juste dans le passage qui précède le nôtre, dans les tentations du désert. Jésus lui-même nous a mis en garde contre les faux prophètes ou les prophètes autoproclamés, ceux qui manipulent les hommes. Et ils manipulent les hommes précisément parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Dans Matthieu 24, Jésus nous dit « En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront, produiront des signes formidables et des prodiges, autorité charismatique, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. » L'autorité, encore une fois, elle ne se décrète pas. Et quand on a recours à la manipulation ou à la force, c'est justement parce qu'on n'a pas cette autorité. Alors concrètement, parce que c'est bien beau de philosopher, moi j'aime bien ça, mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus nous demande. Jésus nous dit, donc un peu plus loin, toujours dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 14 à 15, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Alors souvent, en entendant ça, on se dit peut-être qu'il faut être simple, qu'il ne faut pas trop réfléchir, qu'il faut rester simple d'esprit. Soit. Mais qui va pallier cette simplicité, qui va pallier la candeur dont il faudrait faire preuve là? Quand on est un enfant, c'est évidemment les parents et les adultes qui l'entourent, c'est-à-dire les personnes qui ont autorité sur eux. Un enfant, même s'il ne le conscientise pas comme on le fait là en ce moment, un enfant reconnaît intrinsèquement que ses capacités sont limitées, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, il reconnaît son humilité d'une certaine manière, même s'il ne comprend pas, et il reconnaît qu'il ne comprend pas tout. Il sait qu'il a besoin d'être pris en charge. Et quand tout va bien, il comprend qu'il est dans son intérêt de se soumettre à l'autorité bienveillante des parents. Je parle bien d'autorité bienveillante, hein, pas d'abus d'autorité. Imaginez un enfant de 8 ans qui penserait pouvoir se passer de cette autorité et se comporter comme un adulte. Ça arrive des fois, hein, mais il irait au-devant de graves difficultés. Et puis, il aurait beaucoup de mal à faire illusion. Et nous, frères et sœurs, pourquoi vouloir être autre chose que les enfants de Dieu que nous sommes appelés à être? Pourquoi dénier à Jésus l'autorité qui revient sur notre vie? Je veux dire sur toute notre vie. Parce qu'il y a peut-être des domaines... Ok, Jésus, il a autorité sur ma vie, mais il y a peut-être des domaines de la vie pour lesquels on se les garde un peu pour nous quand même. Pour lesquels on défend à Jésus son autorité d'une certaine manière. Notre rapport à l'argent, peut-être. Notre rapport à la santé. Alors, en conclusion, je vous invite simplement, et je m'invite dans le même élan, à garder les yeux grands ouverts sur les œuvres du Christ. À travers les exemples du passé qui nous sont donnés dans l'Écriture, mais aussi ceux du présent, ici et maintenant. Parce que ce sont ces œuvres du Christ, qui manifeste l'autorité de Jésus et qui proclame qu'il est réellement roi, proclame sa royauté. Et pour que cette royauté soit vraiment effective et opérationnelle, alors en d'autres termes on dirait simplement faire advenir son royaume, hein, c'est ce que signifie cette expression, pour que cette royauté soit effective, eh bien il nous faut accepter l'autorité de ce roi, il nous faut accepter de le laisser régner pleinement dans nos vies. Le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le royaume de Dieu, c'est la partie de légitimation d'autorité, puisque Jésus est roi, il est légitime. Et convertissez-vous, hein, dans ma... c'est la même chose que repentez-vous, hein, c'est le même terme. Repentez-vous et croyez l'évangile, autrement dit, acceptez cette autorité. Et donc, laissons-nous transformer par ce roi des rois. Mettons-nous joyeusement sous son autorité. Qu'il nous préserve des séductions de ce monde comme lui-même en a triomphé. Amen.